Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Le confident, l'ami, le compositeur, le producteur, le témoin de mariage, le frère de route des épopées à moto de Johnny à travers l'Ouest américain, c'est lui. Ouais, c'est lui, Pierre Billon, porté pendant 40 ans par une amitié indéfectible, lui qui a écrit pour Johnny « J'ai oublié de vivre » et qui, plus légitime qu'aucun autre, nous raconte l'idole en convoquant en fait des souvenirs aussi savoureux qu'hallucinants dans un livre intitulé « Johnny quelque part un aigle » qui paraît aux éditions HarperCollins. Alors il y a des vies comme ça, follement romanesques, et celle de Pierre Billon l'est.
Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, je suis ravi d'être là.
Ah, et moi donc, cher Pierre, je vais être obligé de dire vous au lieu de tu. On ne s'est pas vu depuis 30 ans, mais
non,
que
mais
c'est bien de se retrouver.
Ça va être difficile que je te vous vois, mais
on va tâcher.
Je ferai le maximum.
Bon, Pierre Billon, vous confiez au début de votre livre, on n'est pas programmé pour porter le cercueil de son ami. C'est pourtant ce que vous avez fait en portant avec ses intimes jusqu'au pied de l'autel de l'église de la Madeleine l'écrin blanc dans lequel reposait Johnny. Alors, elle s'envolait où, vous pensez, à ce moment-là, Pierre Billon ?
Alors, c'est très compliqué parce que pour arriver à tenir le coup et à porter ce cercueil, il faut faire que des choses terre à terre. C'est terrible. C'est-à-dire, tu regardes le nombre de marches qu'il va y avoir à gravir, tu regardes la façon dont tu vas porter le cercueil pour ne pas avoir l'air d'un imbécile et pour ne pas avoir l'air d'un imbécile par rapport au pote que tu es en train de porter, et puis te dire comment je vais faire pour rentrer dans la Madeleine, comment ça va se passer, est-ce que je vais tenir le coup, mais tu prends les choses terre à terre. J'étais avant tout, c'est comment je fais pour le porter, mon épaule le supportera-t-il, etc.
Tout ça pour repousser le chagrin. Alors, on a si souvent répété que Johnny était un phénix, et il est si souvent d'ailleurs revenu de l'enfer, que vous aussi, en fait, vous le pensiez immortel ?
Je pensais pas immortel, mais je pensais de toute façon qu'il partait pas du tout. Quand on a dîné ensemble le fameux jeudi soir, il était hors de question qu'il s'en aille, pour aucun d'entre nous. Alors, tu me parles du phénix, c'est drôle parce que c'est Sardou qui avait écrit la chanson sur Johnny qui s'appelle Phénix, justement,
ouais,
le phénix.
Ouais.
Michel pensait aussi, comme moi, qu'il était... Il nous a fait tellement le coup de l'Arlésienne. Combien de fois il nous a fait le coup de... Il va partir et puis il part
pas. Et il revient toujours.
Mais bien sûr, c'était hors de question. Et là, ce fameux jeudi en question, le jeudi soir, quand on l'a quitté, bien sûr, il était maigrichon. Bien sûr, il était en train de remonter. Pour nous, il était en train de remonter, pas en train de partir vers la lumière blanche. Jamais de la vie.
Et il est vrai que quelques jours avant de partir, Johnny vous a envoyé ce texto. « Mon Bibi, une petite pensée pour toi ce matin. Je t'espère en bonne forme. » Il vous a écrit ça.
C'est hallucinant. Ça me trouble quand je revois. Je n'ai rien acheté de mes textos. J'ai gardé
il est toujours dans votre portable.
Oui, ton téléphone est toujours dans mon portable. J'espère toujours qu'un matin, il va appeler en disant « Salut, c'est Johnny. »
Alors Pierre Billon, il y a dans votre histoire quelque chose d'étonnant, parce que toutes les fées se sont penchées sur votre berceau pour faire de vous une star, or vous avez passé votre vie, j'ai envie de dire, cachée derrière Sardou, puis cachée derrière Johnny. Vous étiez beau, très beau, avec du charisme, du talent, vous avez écrit et composé un sacré nombre de tubes pour les plus grands. Je rappelle que la fameuse chanson « Mes chers parents, je vole », créée par Sardou, reprise par Louane, eh bien vous en êtes l'auteur. Et sur la photo de couverture d'ailleurs de votre livre, où Johnny et vous êtes assis côte à côte, c'est vous qu'on remarque en premier. Oui, oui, c'est vous. Et pourtant, votre vie, et je devine bien sûr que c'est un choix, votre vie, elle est comme en creux derrière celle de l'idole. Vous auriez pu être l'idole, mais en fait, vous ne vouliez pas, vous rêviez pas de ça?
Non, je rêvais pas de ça. J'étais très bien à ma place derrière eux. Je pense pas avoir eu assez d'énergie, assez de courage, assez d'inconscience pour faire ce qu'ils faisaient eux. Enfin, je parle de Sardou et de Johnny, bien sûr, parce que je peux toujours passer ma vie derrière ces deux-là, même derrière d'autres qui étaient des grosses stars aussi. C'était leur courage que j'admirais avant tout, leur courage, leur inconscience, leur folie, de monter sur ces scènes en véhiculant à la fois des entrées en scène démentes, des fois des chansons démentes, mais avoir le courage de le faire. Moi, je me regardais trop à l'intérieur, et eux ne se regardaient pas à l'intérieur.
Ils étaient regardés.
Ouais, Johnny, ils étaient regardés de toute façon, puis Johnny chantait pour les autres. Il chantait pas pour lui.
Alors,
il était le seul à pas chanter pour lui, un des seuls.
Pierre Billon, des tournées surréalistes avec Johnny, dont vous avez été le producteur, avec Sardou, Liza Minnelli, Sammy Davis Jr. ou Sinatra d'ailleurs, bah vous en avez fait vraiment beaucoup. Quand vous n'étiez pas sur scène, vous étiez à l'arrière des jets privés ou des limousines. Ce métier, finalement, il est plus fascinant quand on est caché derrière l'idole, car il y a plus de profondeur de champ. C'est ça que vous voulez nous dire ?
Non, il est pas plus fascinant. Il est fascinant d'être derrière l'idole, évidemment. Mais moi, ça me plaisait d'être dans l'ombre. Je crois que je suis un des seuls à avoir réussi à faire toute une tournée de Sinatra, Sammy Davis Jr. et Liza, et avec très peu de photos, je crois. S'ils ont réussi à me piquer sur le programme, je dois être caché derrière en smoking sur le programme quelque part, mais un mal fou à m'avoir en photo. Finalement, c'est celui qui m'a fait sortir de cette ombre qui me recouvrait et dans lequel j'étais bien confortable, d'ailleurs, pendant quelques longues années, c'est Sardou. C'est Michel qui, lorsqu'on a fait la dernière tournée, le dernier album de Michel que j'ai produit avec mon associé, on a produit l'album, on a fait les chansons, et Michel m'a dit oh, maintenant on va faire une tournée. Je lui ai dit oui, formidable, je viendrai vous voir en tournée. Non, tu viendras pas me voir.
Tu seras sur scène.
Tu vas être sur scène parce que je veux faire exactement ce qu'on faisait il y a 40 ans, c'est-à-dire voix et guitare, et sur les chansons de l'époque, toi tu viendras et tu feras voix et guitare. Et il m'a fait sortir de l'ombre. Et curieusement, moi qui a toujours eu peur, j'ai toujours les jetons de monter sur scène, je pensais pas avoir ce qu'il fallait pour ça. Je me suis senti tout tellement à l'aise là-dessus en me disant, mais c'est formidable, il m'a donné une grande chance, me voilà à cet âge-là en train de faire des sourires à tout le monde et avoir plein de gens qui applaudissent. Et lui, j'ai trouvé ça pas mal. Et donc, je me suis dit, je vais... Après, il y a eu cette horreur avec mon pote Johnny. Et je me suis dit, je vais peut-être sortir de l'ombre. Voilà, je vais faire deux, trois choses qui vont se faire sortir de l'ombre.
Voilà, donc il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Non, exactement, je vais accepter.
Voilà, maintenant, et puis attention, dans la prochaine vie. Voilà, mégastar international. C'est avec Pierre Billon qu'on se balade cet après-midi. On se retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invité Pierre Billon.
Quand l'ami de toujours, celui qui publie chez HarperCollins, Johnny, quelque part un aigle, quand cet ami-là donc convoque les souvenirs, faut l'écouter, car sa vie à lui est aussi folle que celle de l'idole. Pierre Billon, puisqu'il s'agit justement de Pierre Billon qui signe ce livre, quand on a une chambre d'enfant qui se trouve juste au-dessus d'un cabaret, forcément la musique et les applaudissements s'invitent dans tous les rêves de gosse. Ce cabaret, il se trouvait à Montmartre, tout près de la place du Tertre, et sur la façade on pouvait lire « Chez Patachou ». Alors je voudrais que vous nous racontiez comment vos parents étaient passés de pâtissier à tenancier de cabaret, tout de même.
Oui, effectivement, ils sont passés de pâtissier à boîte de nuit. Mais au début, c'est mon père qui, un jour, a trouvé, juste après la guerre, il a trouvé un local là-haut à Montmartre. Il a dit, je vais faire une pâtisserie. Il n'avait jamais mis ses mains dans un gâteau, quel que soit, ma mère non plus. Donc, ils ont fait une pâtisserie. Ils ont trouvé ce nom Patachou à travers, je pense, Victor Hugo. C'est dans Victor Hugo que Patachou était sorti. Puis, d'un seul coup, mon père à côté a vu un autre local. Et mon père avait toujours rêvé de faire un cabaret, un vrai cabaret à l'ancienne. Et bien, il a dit, on va faire un cabaret. Et c'est comme ça que c'est arrivé. En vérité, ils n'étaient pas pâtissiers, ils n'étaient pas cabaretiers non plus.
Mais un cabaret avec quels artistes au départ?
Alors justement, il n'y avait pas d'artistes au début. Au début, c'est mon père qui chantait. C'est ça qui est extraordinaire. Maman était à la caisse, absolument magnifique, blonde, sublime, avec son chemisier blanc déjà. Et mon père chantait. Et mon père chantait fort bien d'ailleurs, mais chantait des chansons de salle de garde, osées on va dire. Et puis un jour, mon père a une extinction de voix, c'est un truc de dingue. Et il dit à maman, vas-y. Et le décalage incroyable de cette très très jolie femme, très élégante, en train de chanter la grosse bite à Dudule, c'est une horreur.
Ah, carrément!
C'est ça, c'était à l'époque, c'était la grosse bite à Dudule. Et ça a fait un carton terrible, et ça fait ce que, pour appeler de nos jours le buzz, et du jour au lendemain, tout le monde s'est trouvé dans le cabaret. Alors après, il y avait des artistes qui sont arrivés, bien évidemment, dans le cabaret, il y avait des premières parties. Mais enfin, l'animation était faite par ma mère, voilà.
Très bien. Alors, voilà. Vous dites qu'ensuite, des artistes sont arrivés. C'est chez vos parents, Pierre Billon, qui a débuté, Georges Brassens, qui au départ ne voulait absolument pas chanter, n'est-ce pas ?
Ah non, il ne voulait pas chanter du tout.
Il voulait juste proposer des chansons.
Il voulait placer des chansons, bien sûr. Il voulait proposer des chansons à maman. Et ils sont arrivés, il a commencé à chanter quelques chansons alors qu'ils étaient à table. Et là, est-ce que vous aimez mes chansons, madame ? Il dit oui, très bien, elles sont formidables, vos chansons, vous commencez demain en tant que chanteur. Il a dit, mais je ne veux pas chanter. Il a dit, mais si, c'est ce qui va se passer pourtant. Et il l'a passé sur scène. Et dès le lendemain, Georges Brassens chantait ces chansons qui étaient pour l'époque extrêmement pointues. Il chantait ça à travers des gens qui n'avaient qu'une envie, c'était d'entendre la grosse bite à Dudule. Mais enfin bon, ils ont écouté d'autres choses quand même, heureusement.
Heureusement. Alors Pierre Billon, le concept du buzz, on peut dire que, en fait, c'est votre maman qui l'a inventé avec un culot d'ailleurs qui faisait accourir le tout Paris. Faut nous raconter.
À la cravate, tu veux dire.
Mais oui.
Ah, bien sûr. Vous voulez dire, pardon, excuse-moi. ça a commencé avec Brassens, en vérité, la cravate. Donc, chez maman, il y a quand même...
Pourquoi avec Brassens?
Parce que c'était Georges, justement. Parce qu'à partir du moment où il n'appréciait pas Georges Brassens, et que maman, elle, appréciait Georges Brassens puisqu'elle l'avait fait chanter, et qu'il voyait cette espèce d'homme bourru qui ne faisait absolument aucune concession pour avoir... C'était pas le genre, faites du bruit, allez, tout le monde avec moi, etc. C'est pas du tout ça. Il arrivait, il chantait ses œuvres, il se barrait. Il y a eu Brel aussi, quand même. Il y a eu Brel, il y a eu Aznavour et tout ça.
Bien sûr.
Donc, à partir du moment où quelqu'un n'appréciait pas l'œuvre qu'elle avait proposée, maman, elle arrivait avec un grand ciseau, elle lui recoupait la cravate, puis elle le clouait au plafond.
Comme un trophée.
Comme un trophée. Donc ça a couru tout Paris. C'était dans, cette belle femme qui non seulement est drôle, mais vient et coupe la cravate quand on n'aime pas ce qu'elle présente comme artiste. Ça a fait le tour de Paris. Et alors après, tu avais par exemple Farouk, le roi, systématiquement allait chez Dior deux jours avant et prenait 3-4 cravates et ça l'amusait de faire semblant d'être désagréable pour se faire couper la cravate.
Mais ça veut dire qu'on parlait de votre mère bien au-delà des frontières.
Ah,
la Gacane, par exemple, le descendant de Mahomet, figure mythique de la jet set de l'époque.
Bien sûr,
lui aussi, il faisait le plein de cravates pour que votre maman vienne couper chaque fois.
Maman était adorée chez Hermès, hein, ça c'est sûr. comme ils allaient plutôt les acheter chez Hermès, c'est sûr que ça se passait bien.
Et alors, en même temps, Brel, Aznavour et Édith Piaf, Pierre Billon, chantaient donc sur la scène de Patachou. Mais très vite, c'est votre mère qui a accumulé les succès discographiques. On lui a proposé d'enregistrer un premier disque, un deuxième, au point que un producteur américain lui a un beau jour demandé d'amener, carrément de transporter sa gouaille parisienne jusque sur les scènes de Broadway, c'est ça ?
Tout à fait. Producteur américain qui a fini par l'épouser d'ailleurs, qui a été mon deuxième papa, qui était Arthur Lesser.
Mais ça c'était tout à fait inattendu quand même comme cheminement.
Les Américains sont toujours friands de ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils ne savent pas faire en vrai. Et puis maman était exactement le titi parisien, mais elle avait eu cette formidable intelligence dès très très jeune de parler anglais. Maman parlait anglais, ce qui était très rare pour une femme venant d'une classe modeste, faut bien le dire. Elle parlait très très bien l'anglais. Et puis donc elle était intelligente, pétillante, rapide, et elle s'est trouvé assez vite à travailler aux États-Unis et de faire Broadway. C'est là où je l'ai accompagné d'ailleurs, à se retrouver à Broadway, bien sûr.
Exactement. Bien sûr. Alors, avant d'évoquer Broadway, parce que je parlais d'Édith Piaf, qui venait chanter chez votre mère, c'est quand même incroyable. Il paraît que dans votre chambre, au moment où vous alliez vous endormir, vous aviez des visites comme ça, inopinées, de Piaf qui venait vous embrasser, mon petit Pierre, dors bien. Alors que vous deviez rêver que d'une chose, c'était en fait filer avec elle en coulisses pour ne pas en rater une miette, non ?
Non, moi j'aimais bien quand elle venait me faire une bise. Elle me faisait une bise régulièrement avant d'aller chanter. Et il y en avait une autre qui venait me faire une bise et qui s'appelait Maria Vincent, celle-là me plaisait bien aussi. Hein. Voilà.
Plus que Piaf.
C'est différent, tu sais, quand tu es bébé comme ça, tu es plus attiré par certaines choses, on va dire.
Voilà, bon. Alors, Pierre Billon, vous aviez 15 ans lorsque votre mère est passée de la scène du cabaret de Montmartre aux scènes mythiques de Broadway. Alors, on est en 1962, Kennedy règne sur l'Amérique, le Rat Pack avec Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. Est vraiment en tête de tout ça, donne le ton du groove et du glam. Et voilà que votre mère annonce aux gamins de Paris qu'il faut faire les valises. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous atterri à New York?
Déjà, j'étais tellement nul à l'école que ça servait à rien que j'y reste plus longtemps. J'avais fait toutes les écoles possibles et je m'étais fait lourder de tout. Donc, en vérité, il était fin de quatrième, à mon avis, début de troisième ou un truc comme ça. J'ai décidé d'arrêter. Et donc, comme il partait, je suis parti. Et j'ai dit, il faut me trouver un petit boulot là-dedans. Et je me suis retrouvé aux Folies Bergères à 15 ans et demi, 16 ans. 16 ans avec un petit boulot au Folies Bergères.
Ah, on va l'évoquer tout
D'accord.
à l'heure, le petit boulot. Mais c'est-à-dire que, en fait, votre maman était partie avec toute la troupe des Folies Bergères, c'est ça?
Ah oui, bien sûr.
Pour monter une méga comédie musicale.
Qui a très bien marché. On a fait un an et demi. Enfin, un an et demi Broadway, bien sûr.
Un an et demi à Broadway, ça veut dire que c'est un vrai triomphe. Ah,
c'était fantastique. Fantastique. Ce fut une expérience extraordinaire.
Elle est restée combien de temps, votre maman, là-bas, aux États-Unis?
Maman, elle y repartait très souvent après. Mais cette période-là, c'était un an et demi. Après, elle est rentrée. Moi, je suis resté. ça.
Et en fait, c'est cet épisode-là qui a décidé du reste de votre vie, n'est-ce pas?
Oui, en gros, oui. En gros.
Oui.
L'Amérique a été beaucoup, ça a déclenché beaucoup de choses chez moi. Et puis, oui, et puis la preuve, c'est qu'on y est retourné sans arrêt avec Johnny, avec tout le monde, avec Sardou.
C'est vous qui avez entraîné, en fait, Johnny aux États-Unis. Et c'est vous qui avez emmené Johnny enregistrer à Nashville, d'ailleurs.
Bien sûr, c'est moi qui l'ai emmené aux États-Unis. C'est moi qui ai emmené Sardou aussi aux États-Unis. Après, il est resté à Miami. Non, non, bien sûr, bien sûr.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Très bon samedi à l'écoute d'Europe 1, toujours en direct avec Isabelle Morizet, son invitée, amie proche de Johnny Hallyday, Pierre Billon.
Ça pourrait faire l'objet d'un film. Ah, pour l'instant, il s'agit d'un livre très savoureux. Pierre Billon réveille les souvenirs dans Johnny, quelque part un aigle, qui paraît chez HarperCollins. Alors, Pierre Billon, on évoquait à l'instant le gamin de Paris déboulant à Broadway dans les valises de sa mère, chanteuse. Mais il faut préciser que votre maman, Patachou, avait entraîné avec elle toute la troupe des danseuses des Folies Bergères. Et j'ai appris que vous avez commencé à gagner votre vie en peignant le corps des danseuses nues avant qu'elles n'entrent en scène.
Ouais,
mais
vrai.
Quel joli métier!
Ah, il y a pire, il y a pire, il y a des trucs beaucoup plus agréables, plus déplaisants que ça. Non, non, oui, je me suis retrouvé, alors peut-être une époque où il n'y avait pas d'auto-bronzant, donc en gros, tu avais des petites pastilles que je faisais diluer dans de l'eau chaude et des grosses éponges à l'ancienne, et quand tu étais à peu près bien, je peignais le corps des danseuses afin qu'elles soient bronzées. Bon, et évidemment, quand tu as 15 ans et demi et que tu vois des dames toutes nues et des messieurs tout nus toute la journée, au bout d'un moment, tu as la tête comme
enfin,
ça.
Enfin, vous ne peignez pas les messieurs, vous peignez surtout les dames.
Ah non, normalement, je peigne tout le monde. Moi.
Ah, tout le monde, d'accord.
J'avais une préférence pour les dames, quand même.
Et donc, mais il paraît que vous étiez très timide, ça devait beaucoup les amuser.
J'étais affreusement timide. Comment ne pas être affreusement timide
à
quand
tu as 15
ans et demi et que tu as que des bombes devant toi? Et donc, je le faisais. Et puis, à un moment, une sublime meneuse de revue qu'on connaît très bien, qui s'appelle Liliane Montevecchi, qui est absolument divine et extraordinaire, m'a attrapé la main et a dit « Bon, mon petit bonhomme, là, il va falloir que tu arrêtes, là, il va falloir que tu nous regardes, parce qu'on est toutes nues tout le temps, tu vas te taper pendant un an et demi du tout nu, donc maintenant, tu essaies de faire ton travail proprement, au lieu de faire des tâches de partout, donc tu ouvres les yeux et tu fais ton travail. » J'ai dit « Bon, bah d'accord. » Et puis, et ça s'est très bien passé.
Eh ben, bien sûr, voilà, Pierre Billon était au paradis.
Et Liliane était absolument divine avec moi à ce moment-là. Elle a montré exactement ce qu'il fallait faire.
Alors, l'année de vos 16 ans, Pierre Billon, eh ben vous rencontrez dans une boîte de nuit une petite brune qui en a 17 et avec laquelle vous avez un point commun. Vos mamans, à tous les deux, sont chanteuses. La sienne s'appelle Judy Garland. La petite brune, c'est Liza Minnelli.
C'est vrai, exactement vrai. On se rencontre dans une boîte qui s'appelle El Mio. C'était juste en bas de l'hôtel où on habitait, nous, Delmonico. Et puis, c'était une boîte où allaient tous les gens du Chorus People, tu sais, tous les petits du show business, enfin de Broadway.
Pour continuer la fête après la scène.
Bien sûr, on allait danser. Moi, j'allais à l'école à cette époque. En plus, j'allais à l'école en même temps. Moi, j'allais à l'école la journée, je travaillais le soir. Enfin, une vie de folie, tu vois. J'allais danser. Une boîte, je le précise, où les gens ne picolaient pas et tout ça. C'était vraiment des années différentes. Ils y allaient vraiment pour danser comme
on
des fous sans arrêt.
On était en 62-63.
Voilà, exactement. Moi, je la vois, on discute, elle danse merveilleusement bien, elle rigolote comme tout. On discute et effectivement, je lui dis, comme font les enfants toujours. Et tes parents, ils font quoi, toi? Elle me dit, ma maman, elle chante. Ah, je dis, bon, et toi? Ben, j'ai maman, elle chante aussi, voilà. Et c'était Liza. C'était un truc extraordinaire.
Alors, cette amitié amoureuse avec Liza Minnelli, ouais. Elle s'est jamais érodée avec le temps. Et pourtant, la dame est pas facile, hein. Parce non. Que, en lisant votre livre, j'ai appris qu'un jour à l'Élysée, en plein milieu d'un dîner donné quand même par Jacques Chirac, ouais. Liza Minnelli se lève en s'exclamant, bon, on s'en va, j'ai très envie de manger des escargots.
Ça fait vrai, bien sûr. Vous voulez manger que des escargots.
Et vous la suivez.
Ben, t'as pas le choix. J'étais même avec. Alors, en plus, je disais, ça avait l'air sympa, tout ce qui nous amenait à manger, ces gens-là. Et au bout d'un moment, elle dit, bon, c'est certainement, on se casse. Bon, très bien. Mais elle l'a fait 10 fois, elle me l'a fait 10 fois, ça. Elle l'a fait dans des conditions bien pires.
Et la réaction
ça.
De Jacques Chirac?
Rien. Je crois qu'il était remonté dans ses appartements, pour dire la vérité. Restait Madame Chirac, lui, il avait remonté dans ses appartements. Il y avait tout le métier qui était là. L'hôtel, il dit, on s'en va, on va manger des escargots. Voilà. Mais tu peux rien faire. Elle me l'a fait avec Michael Jackson aussi. Hein.
Ah oui, c'est vrai.
Avec Jackson.
Michael Jackson qui l'avait invité.
Pareil, j'ai au téléphone. On est à l'hôtel, on est au Plaza. Téléphone sonne. Ah, hi, it's Michael. Je dis, bon, elle voulait parler à Liza, donc je file la voir. Et je dis, il y a Michael qui appelle et qu'il serait ravi qu'on aille. Il faisait le Parc des Princes. Il serait ravi qu'on y aille. Il nous envoie un chauffeur. Non. Je dis, attends, moi j'étais content de voir Michael Jackson, faut être gentil.
Qui ne le serait pas.
Et j'y retourne, je dis, non, elle ne va pas pouvoir, insister. Je retourne dans la salle de bain, vraiment, ça lui ferait plaisir. Non, je vais aller manger des escargots à Montmartre. Donc deux fois les
escargots. Oui, c'était une obsession.
Depuis ce jour-là, je hais les escargots pour dire la vérité.
Ah, j'imagine.
J'ai jamais aimé les
escargots. Alors, on retourne à New York, Pierre Billon.
Bien.
À la fin de l'adolescence,
oui,
vous habitiez donc le quartier de Hell's Kitchen, qui était
Hell's
le
Kitchen,
secteur
46e.
Voilà, de l'Actor Studio, là où on avait tourné West Side Story. Or, il paraît que vous avez été repéré par l'Actor Studio, qui voulait vous glisser dans les pièces expérimentales de l'époque.
Oui, tout à fait, je me suis retrouvé
c'est
à l'Actor Studio.
C'est pas vous qui avez frappé à la porte.
Non,
hein.
pas du tout. C'était justement à El Millo, il me trouvait plutôt sympa, bougeant vachement bien, etc. Avec l'accent français absolument délicieux. Et donc, je me suis retrouvé à l'Actor Studio faisant deux projets avec Shelley Winters. Et un projet qui s'appelait
immense
Bicycle
actrice.
Riding, mais c'est quand même un truc de fou quand
Shelley Winters.
Un projet qui s'appelait Bicycle Riding, où on était tous sur des bicyclettes virtuelles, hein, pour te dire.
Ah oui, c'était perché.
Voilà. Et celui-là, je l'ai fait, donc j'ai été jusqu'au bout du truc. Et le deuxième s'appelait Pills, qui était sur les pilules que tu prends pour t'endormir, pour te réveiller, pour être joyeux, pour être triste, pour faire tas de choses. Ça marchait moins bien pour
ça
moi,
me fait
parce que c'était pas dans
penser
mon esprit.
À une certaine scène de Macadam Cowboy.
Voilà,
donc vous avez pris la fuite.
Et ça, Pills, ça c'est. J'aurais dit, mes enfants, c'est pas pour moi. J'ai été gentil. J'ai dit, j'ai rien contre, mais c'est pas mon truc. Voilà. Donc là, je me suis tiré.
Voilà.
À fond
donc
la
c'est
caisse,
arrêté là votre carrière de star de cinéma.
Exactement.
Mais alors, est-il vrai, Pierre Billon, que c'est parce que vous vouliez vous engager au Vietnam que votre mère, illico, vous a fait rapatrier en France?
Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. D'abord parce que lorsque tu t'es engagé au Vietnam, tu avais d'abord en tant que résident. J'avais pas la green card, bien sûr, parce que j'étais là. Mais en tant que résident, tu pouvais avoir, tu faisais 3 ans de Vietnam et tu avais le droit à 3 ans d'études et tu avais la double nationalité.
Enfin, 3 ans d'études et la double nationalité si on en revenait du Vietnam.
J'en revenais obligatoirement. Enfin, non.
On est totalement inconscient. À 17 ans, on pense qu'on va aller faire la guerre du Vietnam et forcément, on en revient.
Si, moi, j'en revenais, c'est sûr. Il n'y a même pas un doute là-dessus.
Oui, mais votre mère, elle, n'était pas si sûre de ça.
Je sais que je ne reviendrai pas, mais moi, j'en revenais. C'était le début du Vietnam, ils avaient besoin de traducteurs, ils avaient besoin de gens qui parlent français couramment, puisque le Vietnam parlait français, bien évidemment, et anglais couramment. Donc, j'étais tout à fait prêt à partir. J'avais même coupé les cheveux, c'est pour te dire. Non, j'étais prêt à partir.
Lorsque votre mère vous a dit tu rentres immédiatement à Paris, vous étiez furieux.
Elle est intervenue pour que je me retrouve à Berlin. Je me suis retrouvé à Horb d'abord en
disciplinaire. Pour faire le service militaire.
Et bien sûr. Je me suis retrouvé à Horb, ils sont venus me chercher, hop, ils m'ont filé directement dans le train, je me suis retrouvé à Horb, en Forêt-Noire, et après à Berlin, parce qu'encore une fois, ils avaient besoin de traducteurs. Mais je ne regrette rien.
On était très loin des rizières.
J'ai adoré ça.
Allez, on fait une courte pause, et on replonge dans la vie vraiment follement romanesque de Pierre Billon. Pas qu'une vie dans la vie d'émission présentée par Isabelle Morizet qui reçoit Pierre Billon sur Europe 1. Comment raconter 40 ans d'une amitié rare en 180 pages? Eh bien, Pierre Billon y parvient et y réussit même fichtrement bien. Le livre a pour titre « Johnny, quelque part un aigle ». Il paraît chez HarperCollins. Et derrière l'idole, on découvre la vie incroyablement romanesque de celui qui fut le producteur de Johnny, qui fut son témoin de mariage et en fait, pendant 40 ans, son frère de route. Alors, cher Pierre Billon, à 18 ans, dans une inconscience absolue, je reprends le fil rouge qu'on était en train de dérouler à l'instant. Vous étiez prêt à vous perdre dans l'enfer des rizières du Vietnam pour faire la guerre aux côtés des Ricains afin d'obtenir plus rapidement la nationalité américaine. Votre maman vous rapatrie illico, apprenant cela, de New York à Paris, direction le service militaire à Berlin. C'est pas du tout le même paysage. Et ensuite, vous vous retrouvez dans votre chambre, au-dessus du cabaret de votre enfance, à Montmartre. Et là, vous vous interrogez. Il va falloir commencer à écrire votre histoire. Et ça, c'était l'époque où Paul Naref grattait en fait sa guitare sur les marges du Sacré-Cœur. Donc, pour gagner votre vie, vous commencez à écrire des chansons. C'est ça?
Oui, en vérité, j'ai pas voulu écrire des chansons tout de suite. J'étais dingue de ça, mais je voulais pas écrire des chansons tout de suite. Je savais pas si je voulais être dessinateur ou si je voulais être musicien. J'ai toujours aimé les deux. Et puis donc, je me suis retrouvé Anne-Marie Perrier, qui fait partie de ma famille, comme vous le savez. Anne-Marie me trouve un job à Salut les copains. Ça se passe tellement bien.
Future femme de Sardou.
Voilà. Donc, future femme de Michel. Donc, le job se passe tellement bien qu'au bout d'une journée, je me tire et je rentre à la maison désespéré en me disant j'arriverai jamais à rien. J'avais du mal à communiquer, faut le savoir. Et donc, après, je trouve un deuxième job aux éditions Barclay. Nouvelles éditions Barclay. J'arrive et la première personne que je rencontre, c'est Sardou. Voilà. Et cette, on est là, on est en mai 68. Hein. Donc Michel,
et il s'agissait de devenir en fait son attaché de presse. Et
ouais, je devais faire sa public relation de Sardou, mais ça veut rien dire, tu vois, la promotion de Sardou. Mais demander à quelqu'un comme moi, qui était timide au dernier degré, c'était extraordinaire. Il me donne les piles de disques, ils me disent justement, il faut que tu ailles faire la promo du disque de Sardou. Et Sardou, ça marchait pas du tout. Évidemment que ça marchait pas. Il faisait des choses à contre-courant,
ouais,
et même
ouais.
à contre-courant des opinions politiques.
Oui, enfin, bon, certains titres étaient interdits de radio.
Rebelle, il était rebelle, c'était le protest. Song de droite par excellence, il était rebelle. Et donc, il fallait que je me tape ça, et donc c'était impossible. Mais on est devenus très amis, Michel et moi.
Et vous êtes devenus très amis, et vous avez placé pas mal de tubes auprès de Michel Sardou. Je pense à la Java de Broadway, il y en a d'autres, mais surtout, je voudrais qu'on évoque Je vole, le tube dont la reprise, presque 40 ans plus tard, a fait de Louane une star. Elle est née comment, cette chanson, Mes chers parents,
écoute,
Je vole
Michel est au piano, on est chez lui à Saint-Georges Motel. On avait à l'époque, il avait une maison, mais pas une fantastique maison, on était au début. Et on était à Saint-Georges-Modèle en train de faire une mélodie au piano. C'est lui qui fait la musique pour une fois.
Ouais.
Donc, et je me dis, ce genre de mélodie, ça va être difficile de faire un développement. Et on avait lu un livre tous les deux qui s'appelait Jonathan Livingstone, le goéland. On avait adoré ce livre de Richard Bach. Donc, on pensait souvent à s'envoler. Et puis, je commence à écrire et j'ai écrit l'histoire d'une fugue. Alors après, plein de gens ont dit, c'est un suicide, ou plusieurs choses. Non, dans ma tête, c'était une fugue.
C'était une fugue, dit l'auteur de, justement, Je vole.
Voilà.
Alors, un beau jour enfin, eh bien, a lieu la rencontre avec Johnny, déjà depuis longtemps au sommet de sa gloire. Johnny, pour lequel les Carpentiers voulaient que vous, Pierre Billon, écriviez une chanson pour un de leurs shows à la télé. Sincèrement, est-ce que vous avez compris au cours de cette toute première rencontre qu'elle allait impacter une grande partie de votre vie?
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
J'étais encore au balbutiement des chansons. J'avais pas fait de tube. J'avais fait juste un truc très important pour Reggiani, qui était Ballade pour un traître. Mais je pensais qu'à m'amuser. J'avais pas de plan de carrière du tout. Et donc, je fais cette chanson. La demoiselle en question, c'était un duo avec Rosa Fumetto. Donc, ça se passe dans un saloon. C'est sur le thème du western. Et je me dis, tiens, je vais écrire que des plaisanteries de l'Allemagne à Vermeaux absolument épouvantables. Ça va faire marrer tout le monde. Et je vais montrer ça à Johnny, ça va le faire rire. Et donc, très vite, pour te schématiser l'histoire, Johnny rentre dans le saloon, il rencontre cette jeune femme en question, ça se passe très bien entre eux, et il lui dit, au petit matin, on a fait l'amour, au petit matin, t'as allumé une cigarette, je t'ai dit, Rosa, que tu fumais tôt.
D'accord.
Je me dis, mon Dieu, ça va le faire rire.
L'autre, il a ri ou pas du tout?
J'ai dit, Rosa, que tu fumais tôt. Il l'a chanté, j'ai dit, oh mon Dieu. Je dis, bon, allez, ça va, j'ai compris.
Il l'a chanté au premier degré.
Ouais, tu vas arrêter tes bêtises, Pierre, tu vas faire des chansons. Et ça n'a fait rire personne. Il n'y a que moi et deux potes qui ont dit « Oh, ce qu'elle est drôle, l'histoire !» Je dis « Bon, ben, ça va, j'ai compris les gars, allez hop. Maintenant, on va sérieusement les choses, on va arrêter les bêtises. »
Alors justement, vous avez fait sérieusement les choses, puisque en 77, vous écrivez pour Johnny « J'ai oublié de vivre ». Son deuxième tube, en fait, le plus vendu de toute la décennie 70. Mais surtout, vous allez devenir, Johnny Sardou et vous, Pierre Billon, vous allez devenir les inséparables enfants terribles d'un showbiz qui reculait vraiment devant aucun délire de l'époque.
Ah oui, c'était terrible.
À ce point-là?
Bah, parce que c'était des tournées différentes, tu sais. On tournait 250 jours par an. Généralement, on se retrouvait tous dans les mêmes hôtels. C'est-à-dire, t'avais la tournée de Claude François qui venait d'arriver, t'avais celle de Julien Clerc qui s'en allait, t'avais un tel qui arrivait. Donc, c'était une catastrophe. Ah oui, on a fait des choses épouvantables.
Épouvantables. Bon, il y a prescription. Alors, est-il vrai que lorsque Johnny vous a réclamé comme producteur, et vous l'êtes devenu, eh ben, Sardou est entré dans une colère qui a duré 10 ans?
Mais c'est de ma faute, hein, c'est de ma faute. C'est moi qui devrais de temps en temps écouter aux portes, ce que je ne fais pas. J'ai été très bien élevé par ma maman. On part aux États-Unis, Johnny et moi, il voulait s'entraîner. Donc Johnny me dit, je voudrais que tu me mettes dans un état physique beau, de façon à ce que je puisse faire ce spectacle sur Mad Max, où je vais me retrouver moitié torse nu, avec une peau de bête, enfin, vous voyez mieux comme ça. Donc on part à Miami tous les deux. Là, on s'entraîne tous les jours. C'est là que je vois que Johnny, quand j'entends des trucs comme quoi Johnny était drogué depuis des années, ça me fait mourir de rire, parce qu'il ne buvait pas une goutte d'alcool avec moi, il ne fumait pas. Le matin, il se levait, on allait courir, et il s'est entraîné pendant 2 mois. Et donc, on s'entraîne, on fait tout ça. Ça. Et puis un jour, il a, je crois que c'est le Parisien ou le Figaro au téléphone, qui lui demande ce qu'il va dire. Monsieur, quand allez-vous, Johnny? Bah, très bien, je m'entraîne, je suis en pleine forme, je vais faire. Je m'entraîne avec mon ami Pierre Billon, qui d'ailleurs sera bientôt mon producteur à partir de matin. Bon, moi, j'écoute pas aux portes. Je dis ça, comment ça se passe? Il dit bien, j'ai eu Figaro au téléphone. Moi, j'oublie l'histoire, on continue à s'entraîner, on retourne chez Gold Gym. Et puis 2 jours après ou 3 jours après, j'ai un coup de téléphone de Sardou. Je te remercie, t'aurais pu me le dire.
Je me dis, de quoi?
De quoi, Michel? De quoi parles-tu? Il dit, oui, je prends ça très très mal que tu ne m'aies pas prévenu. En fait, je dis, Michel, je sais pas, il me dit oui, Johnny. Et là, je m'embrouille comme un fou et j'ai écoute, je suis désolé, voilà, on a été fâchés pendant 5 ans au moins. 5 piges.
Bon, alors, être le producteur de Johnny, c'était un challenge passionnant, mais éreintant. Il était l'idole recordman de la scène et à cette époque-là, il a rencontré Nathalie Baye qui voulait vraiment lui ouvrir d'autres horizons. Et en même temps, on le sait bien, personne n'a jamais imposé sa loi à Johnny. Alors, il était capable, par exemple, vous le racontez d'ailleurs dans ce livre, d'entrer dans un restaurant à l'heure où on l'attendait sur scène, à 200 km de là, pour un gigantesque concert. Vous n'êtes pas devenu cardiaque avec tout ça ?
Ah si, tu deviens dingue, mais il faut être là quand même. Voilà. Le jour en question où on a pris 2h30 de retard, on était à Montpellier, on chantait à Toulouse, c'est-à-dire à 250 km de là, à 7h30 du soir, il ne voulait pas bouger de la chambre, et il me dit, je veux bien une condition, c'est qu'on aille manger deux huîtres à la Côte Bleue à Bouzy.
Deux huîtres, bien sûr.
Deux huîtres à la Côte Bleue à Bouzy.
En un quart d'heure.
Je veux bien. Mais si c'est quelqu'un d'autre que moi, soit le mec lui dit, non, je ne veux pas, et dans ce cas-là, Johnny n'ira pas au concert, soit je veux bien, et ça ne sera pas 2-8, ça sera autre chose. En vérité, on s'est fait avoir, parce qu'on est arrivé à la Côte Bleue. Archenbaum, le patron, nous connaît très très bien. Je dis bonjour, comment ça va ? Ah Johnny, quelle surprise, je suis tellement content, c'est le jour des moules farcies. L'autre, il s'est assis, il s'est tapé les moules farcies, il faut le savoir. Le coup de blanc et les moules farcies. Et après, il était 9h du soir, il y avait 250 km sous la pluie à se taper pour aller à la Halle au Grain à Toulouse.
Qui était bondé à craquer avec les gens qui commençaient déjà à scander son nom.
Ils étaient à 250 km de là. Johnny Hallyday, depuis 8h du soir. On a roulé comme des dingues, on est arrivé vraiment en 1h30, on a dû faire le truc. On est arrivé, il a été changé, il est monté sur scène, personne n'a rien dit. On a fini à 2h du matin, ça a été exceptionnel.
Un triomphe.
Mais oui, parce que... Mais Johnny, par gentillesse, a arrêté d'être en retard. Il faut le savoir, les gens savent très peu de choses, des détails comme ça. Il a arrêté par amour du public d'être en retard. Parce que être en retard dans un zénith, ça veut dire que derrière, il n'y a plus le métro. Ça veut dire que ta voiture, elle est coincée. Donc, on lui a expliqué ça. Et à partir du moment où on lui a expliqué ça, il a toujours été à l'heure. C'était fini après.
Alors, Pierre Billon, il y a une anecdote difficilement croyable, que j'aimerais vraiment que vous nous contiez. Parce qu'elle révèle mieux qu'aucune autre la folie de Johnny et à quel point il était une force de la nature. C'était au cours d'une tournée en Afrique. Le consul de France, c'est complètement irréel, le consul de France à Libreville accueille Johnny pour une grande réception en son honneur. Et ce consul explique à Johnny qu'auparavant il était en poste en Chine et il lui montre l'objet dont il est le plus fier de tout ce qu'il a rapporté de Chine. Un œuf millénaire posé délicatement sur un socle sur son bureau comme un objet d'art très très précieux. Et là, je vous laisse raconter la suite.
La tournée africaine, elle était improbable déjà. Faire une tournée africaine, c'est juste improbable, tu comprends. Et donc, on se retrouve à Libreville chez le vice-consul. Et donc, ce que tu racontes...
L'œuf millénaire.
L'œuf millénaire posé sur un socle en ébène, tu vois.
Ouais.
Tu sentais vraiment qu'il l'avait montré à toute la famille, à tous ceux qui étaient venus. Et Johnny, pour rire, regarde l'œuf millénaire et dit « Mais ça se mange un truc comme ça ?» Et le consul, bien sûr, ça, si on veut, ça peut se manger, cher ami. Vous dites, ah bon, d'accord. Il s'est tapé l'œuf millénaire.
Non mais un œuf millénaire, on meurt dans l'heure qui suit d'intoxication alimentaire.
Il y avait des choses vertes qui lui coulaient de chaque côté de la bouche. Il a fini l'œuf millénaire. Il fait, ah, c'est pas mauvais ce truc-là.
Non, c'est pas possible.
Il a pété l'œuf millénaire.
Même pas malade.
Jamais.
Aucun empoisonnement.
Absolument pas. Absolument pas.
Humain qui puisse gober un œuf millénaire.
C'est un monstre. Mais attends, ce qu'il avait mangé pendant la tournée africaine, personne ne peut le manger. On allait manger des fois, on était invité en brousse, on mangeait des choses, mais moi je faisais attention, j'ouvrais ma petite bouteille d'Evian, je s'en foutais complètement lui. Il était incroyable, de ce côté-là il était absolument incroyable, incroyable. Mais l'œuf millénaire, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai regardé...
La tête du consul ?
À la tête du consul, ça a été effrayant. À mon avis, il est reparti en Chine, il n'y a pas d'autre solution.
On fait une très courte pause, on retrouve tout de suite Pierre Billon.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Bel après-midi sur Europe 1, comme chaque week-end. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet reçoit Pierre Billon sur Europe 1.
C'est en compagnie de Pierre Billon, l'ami toujours de Johnny, qui fait paraître chez HarperCollins Johnny quelque part un aigle, qu'on se balade cet après-midi. Alors, cher Pierre Billon, la règle d'or de tous les spectacles que vous avez imaginés pour Johnny a toujours été la démesure. On vous doit par exemple la mise en scène folle de ce point géant qui s'avançait au-dessus du public et dans lequel apparaissait Johnny quand s'ouvraient les doigts. D'ailleurs, à la fin du spectacle, les guitaristes harnachés s'envolaient eux aussi au-dessus de la foule. C'était dément, je crois que c'était en 84. Bon, tout ça, ça a été un triomphe absolu. Et pourtant, eh bien voilà qu'un matin, alors que tous les spectacles donc sont terminés au Zénith, vous recevez une lettre de Johnny qui vous apprend que vous n'êtes plus son producteur.
Oui, bien sûr.
Pourquoi ? Comment ?
C'est normal. Après, j'ai réfléchi. Au début, j'ai fait un peu la tête. Évidemment, j'ai même fait beaucoup la tête. J'ai cherché qui pouvait être la responsable, parce qu'on cherche toujours...
On cherche la femme.
On cherche la femme, évidemment.
Derrière
l'idole. Je pense que ça a été prouvé récemment encore. Tu cherches qui est responsable de ça. Et puis je me suis aperçu que c'était lui, et il avait raison. J'étais arrivé au bout d'un cycle qui était... J'avais des choses formidables pour lui, très rock'n'roll, mais il lui manquait un public, on va dire, il lui manquait un public. Ce public, c'était cette espèce d'intelligentsia parisienne, il l'avait pas, ce public.
Et pourtant, Nathalie Baye, à l'époque, œuvrait pour ça, n'est-ce pas ? Elle voulait lui ouvrir d'autres horizons. C'est elle qui l'a amené vers le cinéma et Godard.
Vers le cinéma de Godard, c'est elle qui lui a amené Berger. Et c'était une excellente idée. Alors, que moi, je sois remercié à cette époque-là, c'était tout à fait logique. Alors, je tiens à préciser que Nathalie Baye a bien fait.
Ouais.
Elle a très bien fait de faire ça. Elle lui a amené un public qui ne l'a pas quitté par la suite, d'ailleurs. Et... toute cette période de Nathalie était extrêmement bénéfique pour Johnny.
Vous, Pierre Billon, du jour au lendemain, vous n'êtes plus le producteur de Johnny et il faut en fait écrire une autre histoire, démarrer une autre vie. Et c'est celle donc de compositeur de générique pour des émissions de télé et pour les émissions du Loto dont vous co-signez d'ailleurs la musique avec Michael Jackson. C'est oui, chic ça tout de même parce que chaque fois qu'on entend le tirage du Loto annoncé sur TF1, bah voilà, la musique c'est Pierre Billon et Michael Jackson.
Mais, ah ça c'est trop drôle cette histoire. C'est, bien évidemment, je n'ai pas composé avec Michael Jackson, vous vous en doutez bien, mais on récupère le sample de Michael Jackson et on me demande bien évidemment, comme l'émission dure 3 minutes et demie, de continuer l'œuvre, non pas avec la même mélodie ni quoi que ça, mais de continuer l'œuvre et de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose par rapport au sample de Michael Jackson. Ce qu'on fait, évidemment. Mais c'était trop drôle parce qu'on a eu une œuvre, effectivement, une œuvre en commun, on va dire, pendant quelques temps à la télé.
C'est chic. Alors, Pierre Billon, en fait, c'est après avoir cessé de travailler avec Johnny que vous avez fait, avec lui, vos plus beaux voyages initiatiques, comme ces road trips à moto à travers tous les États-Unis. Est-ce que je peux... dire que la moto plus que la musique a fait de vous des frères de route ?
Complètement, bien sûr, bien sûr. Parce que j'avais toujours le respect de Johnny, j'avais toujours l'incroyable présence de Johnny, idole à côté de moi. Mais là, j'avais un homme qui changeait au fur et à mesure de la couleur des montagnes et c'était ça. Et d'un seul coup, on est devenu frères de route à cause de ça. Bien sûr, on a traversé tous les États-Unis entièrement en 90. On est parti de Miami, on était jusqu'à Los Angeles en hiver, ce qui était quelque chose de rude, malade.
C'est quand même insensé parce que, effectivement, vous avez traversé des contrées improbables avec aussi bien des déserts avec 50 degrés de température, n'est-ce pas, ou des orages avec des grêlons insensés. Et puis, il y a eu des moments complètement fous, comme par exemple arriver à Daytona au milieu de 500 000 bikers réunis. D'ailleurs, comment se fait-il que Johnny, qui était inconnu en Amérique, ait ouvert ce fameux défilé de Daytona à côté du patron de Harley-Davidson avec les 500 000 bikers derrière lui ? Comment c'est possible ?
Alors, ça fait partie de son incroyable charisme. Je ne sais pas comment c'est arrivé. On avait mis un drapeau français à l'arrière de sa moto, parti en même temps que tout le monde. D'un seul coup, il s'est retrouvé à côté de Willie G. Davidson. Willie G. lui a souri. Je ne sais pas, il a dû comprendre quelque chose. Et finalement, c'est lui qui a mené la parade jusqu'à la fin. C'était quelque chose de dément, quoi. On n'avait prévenu personne, quoi. Personne ne savait qui est Johnny Hallyday. Enfin, s'il savait un peu.
Mais on ne voyait que lui, en fait.
Les 2000 Français qui devaient être là, quoi. Mais enfin, 2500
on ne voyait que lui.
Bah oui, on voyait que lui. Le charisme. Charisme. Incroyable.
Alors, des road trips à moto, Pierre Billon, il y en a eu d'autres en 2007. Et puis en 2016, le dernier, c'était la Nouvelle-Orléans, Los Angeles. Alors, Johnny a 73 ans, il ne sait pas encore qu'il est malade. Et chaque jour, il se prend, comme vous dites, 500 bornes à moto dans les gambettes, sous un soleil de feu, comme sous les orages. Et puis, voilà qu'une après-midi, à 3000 mètres d'altitude, soudain, il étouffe. Il est très mal, Johnny.
On a 3000 mètres d'altitude, bien sûr. On passe au-dessus de Flagstaff, Arizona, qui est à plus de 3000, qui était presque 4000, et il me dit « J'étouffe, j'étouffe ». Mais comment lui dire, nous aussi on étouffait. C'est ça le problème, c'est que tu respires mal, donc à aucun moment j'ai détecté quoi que ce soit. Il me dit, oh, j'ai eu mal à respirer, mais on était tous dans le même cas, on était à 4000, on venait de faire je ne sais combien de kilomètres. Ben oui, mais il a été au bout, d'ailleurs, sa fille a fait une lettre, moi j'ai reçu la lettre de sa fille, disant que, à quel point son père avait été fantastique, courageux sur toute cette... C'est drôle, ce road trip qui a marqué tout le monde, qui a marqué sa famille, qui a marqué les enfants. Pour que la petite, elle écrit cette lettre qui s'appelle « Mon père, ce héros », où elle dit plein de choses merveilleuses sur son père. Mais sur la fin de la lettre, effectivement, elle explique à quel point Johnny aimait ça. Elle explique qu'au bout de ce voyage à moto, malgré les grêlons, comme tu disais, malgré la chaleur, mon père a été jusqu'au bout de ce voyage à moto. C'était très important.
Quand vous dites la petite, c'est Jade, c'est Joy?
C'était Jade.
Jade, bien sûr. Oui. Parce qu'elle elle vous rejoignait par moments ponctuellement,
nous
c'est
rejoint,
ça
oui. On a eu la grande chance de les avoir à Santa Fe.
Oui, la ville qu'il adorait.
Oui, bien sûr. Mais Santa Fe, à la fois, c'est une joie de récupérer les jeunes femmes et les femmes. Et la carte bleue, c'est une horreur pour la carte bleue. Donc, c'est les deux trucs. À la fois, t'es content, mais pour le reste, voilà.
On retrouve tout de suite Pierre
Billon. Santa Fe, c'est merveilleux.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
La suite d'Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invité Pierre Billon.
Pierre Billon, est-il vrai qu'au cours de la dernière soirée que vous avez passée avec Johnny à Marne-la-Coquette, Johnny vous a dit, après que vous ayez regardé ensemble le film de votre épopée à moto en 2016 à travers les États-Unis, Johnny vous a dit, tu sais, l'année prochaine, eh ben on repart. Mais alors, on restera plus longtemps dans chaque bled. Et puis, tu sais quoi, on démarrera à Santa Fe. J'adore cette ville. Il vous a dit ça, Johnny?
Tout à fait.
Il y croyait.
Bien sûr.
Il y croyait ou il faisait semblant d'y croire?
Il y croyait à fond. Non, il y croyait, nous aussi. On devait partir aussi en tournée en 2019. Il voulait faire une tournée en 2019. Le disque aurait été fini, peaufiné. D'ailleurs, quand on entend le disque, tu vois que c'est des titres qu'il voulait faire pour la scène. Et puis, il était hors de question qu'on ne parte pas faire notre road trip en septembre 2019. Bien évidemment, avec des précisions, il voulait rester, comme tu le dis si justement, plus longtemps dans les villes, rester un bon moment à Santa Fe. Il aimait beaucoup Durango aussi, on serait resté pendant un petit moment à Durango. Et puis, c'était qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on mange la semaine prochaine? Faut le savoir.
Pierre Billon, elle est affreusement sage aujourd'hui, la vie sans Johnny.
Ouais, c'est pas pareil, c'est pas la même. Ouais.
Alors le 9 décembre 2017, pour accompagner le cortège des funérailles de Johnny, 700 bikers s'étaient donné rendez-vous sur des Harley. Paris était peuplé d'écrans géants qui, en plus des images, diffusaient la musique, les chansons de Johnny, mais orpheline de sa voix. Et alors que ces musiciens autour du parvis de la Madeleine jouaient son répertoire exactement comme s'ils étaient sur scène avec lui, eh bien pour la première fois, et vous écrivez ça dans votre livre, vous dites que, en fait, c'est le public qui était la vedette.
Bien sûr. C'est ce qu'a voulu Sébastien Farran et Laetitia, c'est exactement leur vœu. Et je pense que ce sera voulu Johnny. L'orchestre a joué les playbacks. Aucun d'entre nous n'a chanté. Et on a attendu, et c'est le public qui a chanté parfaitement bien, parfaitement juste, connaissant les textes par cœur et avec une incroyable dignité.
Et quand vous dites le public, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes le long du cortège.
Bien sûr, tout le long.
C'est-à-dire la chorale la plus folle, la plus démente qu'on puisse imaginer.
Bien sûr.
À l'unisson, faisant une voix.
Dans la paix et dans l'amour. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a demandé un selfie, il n'y a pas eu un autographe, alors qu'il y avait beaucoup de vedettes. Jamais. Parce qu'en vérité, c'était plus leur idole, là. À la fin, Johnny le disait lui-même, d'ailleurs, c'était pas mes fans, c'était mes amis. Tu ne donnes pas la moitié de ta vie à des fans, tu la donnes à tes amis. Et c'était bien logique qu'ils fassent la plus grande sortie. J'ai entendu des choses comme quoi il aurait préféré un petit enterrement intime, pourquoi pas un buffet campagnard et un cubi, je veux dire, c'était pas du tout le cas. Mmh. Il avait besoin de la plus grande sortie possible, il a fait les plus grandes entrées démentes possibles, pourquoi pas faire la plus grande sortie possible, et respecter le public en disant, mes enfants, c'est à vous, on vous file le film de mon dernier voyage, c'est-à-dire que partout sur les Champs-Élysées, passez ce film en noir et blanc de l'endroit et des moments qu'il a aimé le plus avant d'être touché par cette saloperie. Et puis, il était bien normal que ce soit le public qui chante et que lui, il l'entende là-haut, dans les étoiles.
Alors, dans les dernières pages de votre livre, qui a pour titre, je le rappelle, « Johnny, quelque part un aigle » qui paraît chez HarperCollins, vous écrivez, Pierre Billon, « On n'imagine pas James Dean en maison de retraite ». Voilà. Alors, j'ai presque envie d'ajouter « Et Dieu a inventé le temps pour punir les hommes ». Donc, même si l'histoire est finie, il ne faut pas avoir de regrets, parce qu'elle fut exceptionnelle.
Ah bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce fut merveilleux, voilà. Ce fut merveilleux. Moi, ça reste tous les jours, j'y pense. Tous les jours, on va se faire des choses tendres avec plein d'amour. Il faut y réfléchir, il faut penser à ça. Pour un homme qui était devenu de plus en plus attentif, de plus en plus gentil, de plus en plus tendre avec ses proches et plus attentif à autrui. Vraiment.
Merci de vous être confié si généreusement. Je vous embrasse. Je suis persuadée que dans peu de temps, vous allez reprendre la moto pour partir en road trip sur les mêmes traversées folles que celles que vous avez faites avec Johnny. C'est prévu ?
Ça, c'est sûr. Alors, je peux te dire, ça,
avec
c'est sûr.
Certains de ses potes.
Quoi qu'il arrive, on va repartir, les frères de route et moi-même allons repartir, quoi qu'il arrive, à la date où ils voulaient repartir, c'est-à-dire en septembre.
À la date
septembre.
Où ils voulaient
comment
repartir.
Comment on l'a fait cette année ? En septembre 2018, on est reparti. On a été poser une plaque dans un petit motel qu'il adorait à Mexican Hat, qui est un motel à 40 euros. Ça aussi, les gens ne peuvent pas imaginer que Johnny aimait les motels en bois et à 40 euros. Et c'est là où on a été poser une plaque, ses amis et voilà, ses frères et moi, on a posé une plaque.
À très vite, Pierre Billon.
À
merci.
Très vite, merci beaucoup.
Merci Isabelle Morizet, on vous retrouve dès demain 15h avec votre nouvel invité Francesco Buglione. Et dans un instant, êtes-vous prêt à jouer le jeu ? Le meilleur de Laurence Boccolini sur Europe 1.
Europe 1.